Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, jusqu'au retour de Simon Rubin. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain, où la justice règne. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille, qui sent bon la frangipane. Notre invité, c'est l'humoriste Haroun. Il sort un livre très original entre humour et réflexion. Ça s'appelle Les pensées d'Héraclète. Ne cherchez pas, ce philosophe n'existe pas. Hélène Manarino, elle existe. Elle va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans Les Indispensables, un roman sur l'enlèvement parental entre la France et le Japon, Nicolas Caro va nous le faire découvrir. Et puis une nouvelle mini-série américaine inspirée d'une histoire vraie, Clémence Olivier nous en dira plus. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel.
Je l'ai dit, c'est l'heure de votre écran de veille. Et Bertrand, vous avez regardé la première semaine du JT de notre camarade Julien Bugier sur France 2.
Exactement, Julien Bugier qui a succédé à Marie-Sophie Lacaro, elle-même partie succéder à Jean-Pierre Pernaut. C'est encore plus compliqué à suivre qu'une telenovela. Depuis lundi, Julien Bugier est là pour saupoudrer nos déjeuners de
Bah alors...
Et oui, il est là pourquoi ? Pour saupoudrer nos déjeuners de ce dont notre monde manque cruellement de tendresse. Le regard franc et pétillant, la mèche toujours impeccable, un sourire qui déstabilise les caméras et déclenche les alarmes incendies sur son passage. Un charme irrésistible dont il ne joue pourtant pas car c'est un pro. Il parvient à faire rimer deux mots qui riment déjà, douceur et rigueur. Depuis lundi, il porte sa nouvelle fragrance enivrante, 13 heures de Lancôme. Et dès son arrivée, vous en parliez avec lui mardi, Philippe. Julien Bugier a voulu marquer le JT de France 2 de son empreinte en y installant de nouveaux rendez-vous, de nouveaux formats, mais également un nouveau ton. Car Julien Bugier ne se contente pas de rapporter les nouvelles, il les vit. Comme ici, lors du lancement d'un sujet sur les bouquetins. Et action !
Notre guide du jour s'appelle Pierre Descottes. C'est un baroudeur amoureux de sa région. Et ne faites pas trop de bruit. Chut. Si vous voulez apercevoir des animaux.
L'homme qui murmurait l'info. L'époque est tellement hystérique qu'entendre un présentateur de 13 heures chuchoter un lancement, ça apaise. Il devrait le faire pour tous les lancements. Ça rendrait l'actu beaucoup moins violente. Scène de chaos aux États-Unis. Des partisans pro-Trump ont pénétré dans l'enceinte du Congrès américain mercredi, interrompant la cérémonie de certification de la victoire de Joe Biden. C'est plus doux comme ça, non ? Et cette semaine, parmi les sujets de la partie magazine du JT, Julien Bugier évoquait celle-ci.
En tout cas, pas besoin de ce genre d'application pour déguster une bonne galette des rois. À cette saison, pâte à brioche ou frangipane, c'est selon à chacun évidemment sa préférence.
Et ça, il aime la galette. Savez-vous comment ? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans, exactement. Eva est-elle Jean-Pierre Pernaut dans ses grandes heures ? Julien Bugier se laisse parfois aller à de mini-éditos en sortie de reportage. Vous savez, ce petit commentaire bien senti qu'on n'avait pas vu arriver, mais qui fait mouche. Mais alors, me direz-vous, quel mini-édito peut-on bien faire en sortie de sujet sur la galette des rois ? Eh bien, un édito choc.
Chaque année, ils sont nombreux à devenir roi ou reine le temps d'une galette. 30 millions sont consommés en France.
Miam miam la galette.
Oh mais qu'il est choupi, on dirait un enfant de 6 ans devant un four qui dévoile une pâte bien dorée. On peut le réécouter ?
Miam miam la galette.
Oh c'est trop mignon, ça c'était mardi. Et hier, mercredi, de quoi parlait Julien miam miam la galette en dernière partie de JT ?
Et puis on s'intéressera aussi à la tradition des galettes en ce jour de l'épiphanie, recette classique ou régionale. Nous irons à Besançon.
Il nous a fait une poussée de fèves en seulement 4 jours. Julien Bugier a déjà imposé sa pâte et elle est feuilletée. La galette, c'est une passion, c'est lui, chez lui. No es amor, lo que tu sientes se llama obsesión, comme le chantait le groupe Aventura. Il la veut, sa frangipane. Malheureusement, la vie est une chienne. Écoutez sa déception en retour plateau.
Tout le monde vous attend ici à Besançon, Julien, pour goûter à cette galette comtoise.
Merci Caroline, c'est promis. Et rapporter la galette, parce qu'on a appelé partout les boulangeries de Paris, on a eu du mal à en trouver nous ici.
Alors vous me connaissez, c'est pas mon genre de ne pas venir en aide à un confrère qui souffre. Je lance donc une grande opération et en appel à votre générosité. Si vous êtes possesseur ou concepteur de galettes des rois, merci de les envoyer à France 2 ou chez nous, puisque Julien y présente Europe Soir. Europe 1, opération Miam Miam la galette de la frangipane pour Julien, 2 rue des Cévennes, 75-015 Paris d'avance. Merci, tu l'auras ta galette Julien. Et ça, qu'avec ou sans couronne, tu resteras le roi de l'info.
Miam miam la galette.
Merci Bertrand Chamerois. Et c'est devenu un mème, miam miam la galette.
Exactement.
Sur Twitter. Et ça continue. Eva Rock,
oui.
C'est l'heure de votre zapping du lendemain. Miam miam le zapping. Quels sont les programmes à voir ce soir et quel est le thème ?
Miam miam la justice. En tout cas, une certaine idée de la justice à travers une série et une enquête. Sur TF1, vous venez d'en parler avec Fabrice Bailly, débute la série policière La Promesse avec dans le rôle principal Olivier Marchal, alias Pierre Castaing. C'est un flic en charge d'une enquête après l'enlèvement d'une fillette, Charlotte. On est dans les Landes et c'est le soir de la tempête de 1999. Il a un suspect, mais son supérieur hiérarchique va lui demander d'arrêter l'interrogatoire parce que le suspect en question a un alibi.
Écoute, j'ai déjà travaillé sur Jean Memec. Je suis sûr que c'est lui, moi. Ça se voit à son regard.
Pierre, tu peux pas décider qu'un type est coupable juste parce que t'aimes pas son regard. Et un coupable, on en a déjà un. Tony Andrei, qui a avoué en plus.
Mais Tony a pas enlevé Charlotte.
Pierre, s'il te plaît, rends-toi à l'évidence.
Il faut mettre le paquet sur Fouquet, je te l'ai déjà dit.
Mais arrête avec Fouquet, bordel. Il a un alibi, je te dis.
Son alibi, c'est sa femme, son alibi. C'est sa femme. Laisse-moi finir de l'interroger, d'accord? Je te promets qu'avant la fin de la garde à vue, il aura tout avoué.
La promesse, c'est l'histoire de cette enquête et d'une autre qui débute 20 ans plus tard, menée par la fille de Pierre Castaing, Sarah, incarnée par Sophia Essaïdi. Et entre les deux affaires, il se pourrait bien qu'il y ait un lien, évidemment.
Et si vous le recommandez, c'est que c'est bien.
Exactement. Sinon, j'en parlerai pas.
J'en suis ravi parce que c'est un partenariat européen, ça fait toujours plaisir de le savoir. On s'est même posé la question hors antenne. J'ai dit à Eva, est-ce que c'est bien? Elle m'a dit oui, très bien.
6 épisodes, c'est sur TF1, c'est déjà sur Salto. Vous pouvez déjà tout regarder, c'est parfait. Et vous allez donc découvrir Pierre Castaing, alias Olivier Marchal. C'est l'homme en colère, c'est le révolté, c'est un être épris de justice, quoi qu'il en coûte, qui n'a pas peur de l'affrontement et des tensions. Et ce personnage, eh bien, écoutez, il partage des points de commun avec un autre homme de justice, Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste nommé garde des Sceaux le 6 juillet dernier. Complément d'enquête lui consacre un portrait très bien fait, intitulé « Le coup d'éclat permanent ». Et c'est vrai qu'il aime ça, les coups d'éclat, Éric Dupond-Moretti, dans l'enceinte d'un tribunal ou dans sa communication en tant que ministre. Et une histoire éclaire particulièrement son parcours et sa conception de la justice. En 1993, il est accusé dans un dossier de stupéfiants. Il s'oppose violemment au procureur en charge de cette affaire. Il a subi une garde à vue, une perquisition. Éric Dupond-Moretti n'est pas épargné. Il ne sera pas poursuivi, mais il vit cette situation comme une immense injustice. Et s'ensuit d'ailleurs une période assez compliquée pour lui.
Des idées noires, c'est le suicide?
Des idées noires, c'est des idées noires. Les traces que ça a laissées, c'est que je sais ce que c'est qu'une perquisition. Je sais ce que c'est que la coercition. Je sais ce que c'est qu'une intrusion dans la vie de quelqu'un à son domicile. Je sais aussi ce que c'est que de porter le poids de la suspicion. Et la difficulté que l'on peut avoir quand on ne peut pas démontrer quelque chose que l'on n'a pas fait.
Il s'agit d'un extrait d'un entretien donc, que le ministre a accordé à complément d'enquête. Mais le portrait est loin d'être dithyrambique. Écoutez comment le magistrat Luc Frémiot parle d'Éric Dupond-Moretti.
Il n'a pas de limite, c'est très facile de le rendre furieux. De le mettre en colère, et une violence verbale, une violence de comportement.
Il est capable de faire peur à un enquêteur,
à un
témoin.
Mais bien sûr, il les intimide, il leur fait peur.
Il peut être irrespectueux?
Oui, bien sûr. Il n'a aucun respect pour... Presque il a du respect pour personne. Ça fait partie de son ADN.
Et qu'est-ce qu'il respecte, selon vous?
La force. Il respecte la force et le talent.
Voilà, chacun sa conception de la justice. Donc, Olivier Marchal en flic, c'est dans La Promesse, à voir sur TF1 à 21h05 ou sur la plateforme Salto. Et La Justice, selon Éric Dupond-Moretti, c'est sur France 2, dans l'excellent numéro de complément d'enquête à partir de 23h.
Merci beaucoup Eva Roque, merci beaucoup Bertrand Chamorro. Ne partez pas tout de suite, parce qu'à 11h, toute l'équipe de Culture Média fait une galette.
Miam, la galette.
Dans un instant, notre invité, l'humoriste Haroun, mais d'abord musique avec Jérémy Frérot.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Haroun.
Bonjour.
Vous êtes humoriste, jeune humoriste même comme on dit, et même si vous êtes discret sur votre âge, vous avez quel âge?
Moi, j'essaie de rester discret, non, mais j'ai plus de 35.
Plus de 35. Et juste pour vous situer, hier, je recevais à ce micro l'essayiste et journaliste François Reinhardt, et comme toujours en fin d'émission, j'ai annoncé le programme du lendemain. Demain, dans Culture Média, nous serons avec Haroun. Il sort en ouvrage, si on ne savait pas que c'était Haroun.
J'adore.
Vous l'adorez, Haroun?
J'adore, c'est un de mon humoriste préféré.
C'est pas vrai.
Ah, mais je vais écouter.
L'humoriste préféré de François Reinhardt, c'est Haroun. Il sera demain avec nous. C'était pas préparé du tout, ça met bien la pression.
Ah ouais.
Et au-delà de ça, ça situe, parce que Reinhardt, c'est un journaliste, et vous agissez souvent comme un journaliste. Par exemple, hier, vous avez fait un tweet sur ce qui se passe au Capitole à Washington. Vous avez tweeté « Peut-être que l'Irak va envahir les USA pour leur apporter la démocratie ».
Pour leur rapporter.
Rapporter.
Il y a quelqu'un qui a noté que le R était important juste avant rapporter.
Ouais. C'est moi qui ai mal prononcé, mais c'est avec le masque. À chaque fois, je dis
je prononce mal. Les masques, ça pose problème en ce moment, mais pour bien se comprendre. Mais oui, on voit un exemple de ce que les pays occidentaux peuvent faire par rapport à ce qu'ils pensent savoir faire. Et apporter la démocratie, il y a beaucoup de pays qui pensent pouvoir le faire et ils devraient regarder parfois un peu plus à ce qu'ils font eux.
Ce que dit ce tweet, c'est qu'il parle de vous. C'est pourquoi un jeune humoriste tweet sur la politique internationale?
parce que il y a des, comme chez les gens, il y a des situations risibles dans la géopolitique et souvent j'ai l'impression que les pays agissent comme des personnes. On pourrait les ramener à des personnages en fait. On pourrait ramener les États-Unis à un personnage et bon, donc c'est risible parce que ce sont des comme des gens et moi c'est des sujets de prédilection.
Ouais, mais j'ai mal posé ma question. En ce moment, les jeunes humoristes sont plutôt des sujets sur les véganes, sur l'autolib, sur le métro, sur les masques et sur les réseaux sociaux. Moins la politique étrangère.
Non, c'est vrai. Bah, c'est devenu un peu mon sujet. Et à force de s'y intéresser, ça fait un effet boule de neige. Plus je m'y intéresse, plus je trouve des situations risibles. Donc, j'ai pas fait le choix de ça. C'est pas vraiment un choix. C'est juste que je m'y intéresse. Moi, j'essaie de rire des choses qui me touchent. Et là, ça m'a touché.
Et ça touche pas seulement vous-même, puisqu'au-delà de la vanne, 3722 retweets. J'ai noté ça ce matin au moment où j'étais en train d'écrire mon texte, ce qui est considérable. Est-ce qu'on peut faire votre métier sans les réseaux sociaux désormais?
J'espère. Moi, j'espère sincèrement qu'on peut le faire, parce que les réseaux sociaux sont de plus en plus flippants. Oui, modestement, j'ai essayé de faire un site pour diffuser de la vidéo d'humour. C'est aussi pour m'émanciper un peu des réseaux sociaux. Je suppose qu'en ce moment, c'est difficile de se faire connaître sans les réseaux sociaux, en effet, surtout quand on est dans ma génération.
On va parler évidemment de votre site qui s'appelle pasquinade.fr. Vous nous direz d'où vient ce mot pasquinade et site sur lequel on peut trouver des vidéos qui font des millions de vues. Votre actualité, c'est cet essai humoristico-philosophique. Ça s'appelle « Les pensées d'Héraclète » aux éditions de l'Équateur. Alors, il n'existe pas Héraclète, j'ai bien compris, c'est un mix entre Héraclite et Épictète. En fait, c'est vous.
Oui, c'est un avatar. On parle beaucoup des réseaux sociaux, j'ai essayé de créer un avatar littéraire.
Que peut dire un philosophe grec antique que vous ne pouvez pas dire vous-même, Haroun?
Déjà, il peut se revendiquer philosophe, ce que je peux pas moi.
Ouais.
Et il peut se moquer des philosophes, ce que je peux pas moi. Héraclète, il a cette place de philosophe antique qu'on peut pas contester parce que il est antique.
Ouais.
Et je me moque un peu de la philosophie et de ce faux élitisme de la philosophie que les philosophes ne veulent pas, mais qu'on place toujours au-dessus comme des gens qu'on comprend pas ou des gens qui disent des choses trop compliquées alors que c'est pas si compliqué.
Alors je veux le dire, je l'ai dévoré, soit on se marre, soit ça donne à réfléchir. Il y a cette réflexion: si un mot a un vrai synonyme, à quoi sert ce mot? Je laisse quelques secondes aux auditeurs. Et cet humour noir, l'attentat suicide est un domaine dans lequel personne n'a jamais progressé. Là encore, je vous laisse mûrir. Une petite question avant qu'on entende Hélène Manarino qui va venir faire votre portrait. Vous parlez de la théorie du scorpion ou l'impossible trébuchement. Vous parlez des personnages publics qui sont obsédés par l'idée de commettre une erreur qui mettrait fin à leur carrière. Et vous écrivez ceci: plus l'audience est importante et gagne en puissance, plus la célébrité a peur de connaître une erreur. Elle ose de moins en moins et son œuvre ou ses propos s'affadissent. Et alors, c'est ça la théorie du scorpion?
Oui, c'est ça. C'est le scorpion, c'est l'animal qui a du poison juste au-dessus de sa tête et c'est son propre poison. Donc il se dit qu'il faut pas qu'il trébuche. Et en fait, en devenant une célébrité, la célébrité, je veux dire le fait d'être célèbre, peut devenir un poison parce que ça peut stresser la personne et ça peut lui donner l'impression qu'elle est pas libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle est célèbre justement.
Est-ce que vous estimez célèbre au point d'être devenu un scorpion?
Non, pas vraiment, parce que j'ai l'impression que mon public est habitué à ce que je fasse plein de choses différentes et j'essaie de rester souple et de rester mobile pour justement garder cette liberté.
On va rester souple, on va rester mobile, on va rester jusqu'à 11h avec Haroun. On attend Hélène Manarino, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'humoriste et presque philosophe Haroun, quand bien même il ne revendique pas ce titre, Les pensées d'Héraclète, c'est aux éditions des Équateurs. Et le savoir-faire d'Hélène Manarino qui nous revient, j'en suis ravie, c'est maintenant.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Haroun.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Petit, vous auriez aimé être navigateur. Alors la mer vous passionne, votre rêve, une traversée de l'Atlantique en bateau. Comme ce n'est pas possible, vous vous contentez de jouer à Virtual Regatta, le jeu officiel du Vendée Globe.
Ouais,
ça compense.
Vrai.
Mais sinon vous aimez l'apnée, vous faites de la chasse marine. D'ailleurs, une fois vous avez même réussi réussi à perdre votre harpon. Vous auriez même voulu...
La tête qui fait... Il fait la tête à roue du gars qui est encore abattu.
Ah ouais.
Vous les retrouvez ou jamais?
Jamais.
Hein, y a un poisson qui est avec votre harpon qui
nage. C'est ça, qui fait la loi.
Vous auriez aimé devenir cuisinier, mais sur un bateau. Alors, sachant que vous cuisinez très bien, poulet à l'estragon, carbonade. Et en ce moment, vous êtes à fond sur les bouillons. Alors, Haroun, vous n'avez pas de bateau, mais ça ne nous empêche pas ce matin de naviguer dans votre vie. Commençons au début du périple, votre enfance, où vous étiez un fin collectionneur de pierres et cailloux que vous ramassiez tout le temps.
La grosse collecte.
Bah, grosse collecte, ouais. Une enfance marquée par
cette musique. Plutôt cailloux que pierres, d'ailleurs.
Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a.
Renaud, vous l'aimez beaucoup. Vous aimiez embarquer vos amis, faire des jeux en extérieur, grimper aux arbres. Vous viviez près d'une forêt, pratique, incollable sur le jeu du petit bac. Votre première découverte, ça a été les dinosaures. Vous ne vous sépariez jamais d'un livre sur ce sujet que vous passiez des heures à feuilleter. Enfant joyeux, surtout quand il s'agissait de manger des salades de fruits. Et oui, il ne fallait pas en revanche vous parler d'endives cuites. Artiste.
Horrible.
Oh là là, toujours, ça vous marque toujours.
Les endives cuites, je comprends pas qu'il y ait quelqu'un qui ait validé ça.
Moi, je valide totalement les endives cuites.
Mais c'est très très bon.
Avec du jambon. Artiste dans l'âme, vous pouviez parfois faire quelques vagues, des vagues drôles. Vous imitiez les déchiens à table. Vous vous amusiez aussi à écrire des clashs de rap en alexandrin.
Oh là
le
là.
Spectacle. Avant tout, la scène, le théâtre, ça vous faisait chavirer le cœur. Vous avez été capable de sécher une semaine de cours pour aller au festival étudiant du théâtre à Nice pour y jouer Songe d'une nuit d'été. Alors, Haroun, force tranquille, oui, au rythme des marées. Aujourd'hui, vous avez un rituel, la préparation de votre thé que vous posez systématiquement à côté de votre ordinateur avant de travailler. D'ailleurs, vous travaillez souvent avec des boules-caisses pour être dans votre bulle. Vous rêvez d'un bureau vu sur la nature avec une machine à écrire qui informatique automatiquement les pages. Vous aimez les choses simples, vous aimez déconnecter par exemple, vous êtes capable d'utiliser encore un 3310, vous savez le téléphone où il y a le Snake.
L'ancien Nokia, vous avez ça?
J'ai acheté ça dans une boutique du 10e arrondissement.
Et il fonctionne?
Oui, ça fonctionne très bien, la batterie dure très longtemps.
D'accord, il fait sa promo en plus.
Haroun, on démarrait par la mer, mais votre amour pour la terre est de plus en plus présent. Vous jardinez beaucoup, vous sauvez même les plantes de toute la famille. La nature, oui, vous baignez avec des piranhas en Amazonie, vous l'avez fait. Parfois, vous avez des activités quand même plus calmes, vous aimez jouer à la belote, faire des checks pour dire bonjour, trop long, avec des techniques où tout le monde vous perd. Regardez la série Westworld, lire le magazine Ouzbek Erika et pensez à votre prochain voyage, le Japon. Et surtout, il y a cette chanson que vous écoutez en boucle.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir.
Vous arrivez en ville, toujours en vélo, surtout avant... Surtout.
Klaxonne quand il arrive.
Avant de jouer votre spectacle, d'ailleurs, en vélo, vous en profitez pour faire vos échauffements de bouche. Vous avez vos exercices, par exemple, de boum, comme ça, mais je ne sais pas le faire moi.
Comment vous le faites?
Voilà. Et un jour.
Et tout ça avec le masque quand même.
Eh ben oui, vous avez fait ça.
C'est talent.
À un feu rouge, et l'automobiliste à côté de vous n'arrêtait pas de rire. Il se disait sûrement, on dirait un gamin qui imagine que son vélo est une moto. Alors, Haroun, les choses qui vous ancrent, c'est aussi et surtout votre famille qui vivent au rythme de votre petite péripétie, comme votre sœur pour son mariage. Vous vous apprêtiez à prendre l'avion pour Berlin, mais votre carte d'identité était périmée. Vous avez donc raté votre avion.
Horrible.
Eh bien oui, au mariage de votre sœur, quand même. Alors, vous avez dû quand même racheter un billet plein pot. Mais il y a quelque chose avec les sœurs. Noël 2018, vous avez interverti les cadeaux. Vous avez offert les cadeaux de votre filleule à votre belle-sœur. Donc, votre belle-sœur a reçu du coloriage.
Elle a quel âge, la belle-sœur?
Elle a 30 ans.
Mais ça fait du bien de casser les codes aussi. C'est ce que vous faites avec l'humour, avec la manière de consommer l'humour. Vous ne vous séparez presque jamais des poèmes de Paul Éluard. « Liberté, j'écris ton nom ». Vous, la liberté, vous la jouez sur scène.
Merci beaucoup Hélène, on va parler justement de sa liberté sur scène d'Haroun. Réaction à ce portrait, Haroun, vous êtes reconnu?
C'est dingue, ouais. Bien sûr, tout est vrai, quasiment à quelques...
Ouais, comme à chaque fois.
À quelques réglages près, mais c'est assez impressionnant. Et non, c'est marrant de retourner en enfance en fait. de les endives kitsch. Franchement, ça marche pas, quoi.
Personne, je suis contente personne que vous reteniez les endives.
Mais Hélène, vous aimez ça parce que vous venez du Nord.
Bah oui, les chicons.
Voilà, et moi j'ai dit ça pour vous être agréable.
Ouais, bah, non, c'est super vrai. Et puis, c'est en fait... C'est assez touchant. Moi, je me livre assez peu, en fait, donc je suis un peu...
On a remarqué que vous livrez assez peu. Rien que votre âge, c'était déjà un problème. J'ai bien remarqué ça. Haroun, avec nous, on marque une pause et on va parler de plein de choses, notamment de littérature, car je sais que vous aimez beaucoup lire. À tout de suite. Ouais.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je suis Héraclète et je n'existe pas. Je suis un philosophe inventé de toutes pièces par un auteur prétentieux qui n'hésite pas à m'utiliser pour briller en société. Cet auteur prétentieux, c'est Haroun, parce que c'est vous, l'auteur d'Héraclète.
C'est ça, je revendique Héraclète en société.
Voilà, je suis Héraclète, le fameux sage qui n'existe que dans la tête de ceux qui veulent bien m'y laisser entrer. Il m'a fallu une demi-heure pour comprendre cette phrase. Vous êtes un grand lecteur, on le comprend, à vous lire. Vous lisez quoi en ce moment ?
J'ai plusieurs livres en ce moment, j'ai des livres de moments, en fait il y a des livres que je peux pas lire le soir. Le livre que j'arrive à lire en journée, c'est Cynthia Fleury, Sigy la mer, c'est un livre philosophique sur le ressentiment. Et le soir, en ce moment, je lis Romain Gary, Les clowns lyriques. Les romans, j'arrive à les lire le soir parce qu'ils m'endorment un peu, mais c'est pas trop important.
Et les essais dans la journée.
Les essais, c'est plus compliqué.
Donc j'imagine que les auteurs que vous citez souvent, parce que j'étais assez impressionné quand même, Hannah Arendt, ça se lit dans la journée.
Ah ouais, plutôt.
Ouais. Ouais, Schopenhauer aussi, ça se lit dans la journée.
Schopenhauer, ça va, ça peut se consommer un peu partout parce que il y a plein de petits aphorismes rigolos.
Ouais. Notamment l'art d'avoir toujours raison.
Oui, l'art d'avoir toujours raison est super et un peu compliqué, mais il y a des aphorismes qui sont vraiment un bon accès à la philosophie, qui peuvent réconcilier les gens avec la philosophie parce que c'est drôle.
Et un mot de Lichtenberg.
Et Lichtenberg, c'est, j'aime bien dire que c'est un peu le vin qu'il y a au fond d'une cave, le petit caviste qui va dire celui-là, c'est un peu spécial, personne ne le connaît, mais c'est vachement bon. Bah, Lichtenberg, c'est ça, c'est un philosophe que personne ne connaît, qui est très drôle aussi, et je vous conseille ses aphorismes. Il y a des
un
super
exemple.
Trucs. D'aphorismes de Lichtenberg.
Et un très drôle. Double pression.
Oui, alors il faut que je.
Le couteau sans manche.
Un couteau sans lame auquel il manque le manche. c'est une énumération de quelque chose qu'il y a dans un cabinet de curiosité. Il dit il y avait un couteau sans lame auquel il manque le manche. Mais ça pose une vraie question philosophique, c'est le fait de nommer quelque chose qui n'existe pas.
Exactement.
Et de nommer un objet qui n'est pas.
Vous connaissez le paradoxe du couteau de Jojo ?
Non.
C'est le couteau de Jojo. On change la lame, on remplace le manche. Est-ce que c'est toujours le couteau de Jojo ?
Ah ouais, c'est ça.
Je vous pose la question, Nicolas Caro, bonjour.
Magnifique.
C'est improvisé.
Hein ? Il faut que je visite vraiment la bibliothèque d'Haroun, je pense.
Nicolas.
L'art d'avoir toujours raison, d'ailleurs, pardon, mais de Schopenhauer, il a été édité en petit format il y a quelques années. Tout le monde s'est rué dessus. C'est un vrai succès d'édition en se disant je vais avoir des cartouches pour avoir toujours raison. Mais en fait, effectivement, c'est extrêmement complexe, Schopenhauer.
Quand on comprend ce stratagème, on voit les discours politiques et on voit vraiment à travers les discours politiques.
De mémoire, il y a 39 stratagèmes et j'ai réussi à en mémoriser une dizaine. Mais déjà, on est très content quand on arrive au 11e ou au 12e et de l'avoir intégré et pigé. Ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Mais là, Nicolas Caro, vous êtes avec nous pour parler de la rentrée littéraire d'hiver. Les premiers romans sont sortis cette semaine et vous en avez choisi un. Vous avez lu notamment le nouvel Olivier Adam.
Son nouveau roman s'appelle « Tout peut s'oublier ». C'est donc l'histoire d'une rupture. Mais pas une rupture, on s'aime plus, c'est la vie. Non, une rupture tragique avec un enfant au milieu, c'est l'histoire de Nathan. Il vit en Bretagne, dans une petite ville au bord de la mer qui ressemble à Dinard. Il s'occupe d'un cinéma d'art et essai. Il projette notamment beaucoup de films japonais, puisqu'il est passionné par le Japon.
Comme Haroun.
C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré June, la mère de son fils, Léo. Elle a quitté le Japon et s'est installée avec Nathan en Bretagne. Mais un jour, il divorce.
Ça arrive.
Oui, et au début, ça une semaine sur deux, elle a pris un petit appartement au-dessus de son atelier de céramique, sauf qu'un jour, plus personne. June est partie et elle a emmené Léo avec elle.
Et au Japon, la garde alternée, c'est compliqué.
Ah bah, impossible même. Explication d'Olivier Adam.
En cas de séparation, il n'y a pas de partage de l'autorité parentale. Donc, c'est même pas qu'il n'y a pas de droit de garde et de droit de visite, c'est que vous êtes celui qui n'a pas la garde de l'enfant et son géniteur, mais n'est pas son père. À tel point que, par exemple, dans le cas du livre, quoi, si June se remarie, le nouveau mari peut adopter l'enfant et devenir le nouveau père de l'enfant. Et le père légitime, Nathan, lui, est doublement dépossédé. C'est une disposition légale, judiciaire, qui est l'héritage ancien qui n'a pas évolué avec la société. Et on en est resté aux règles qui étaient celles des mariages arrangés.
Et donc, comme c'est un roman, j'imagine que le héros, Nathan, va tenter de les retrouver.
Bien entendu. Mais encore faut-il savoir où chercher. Il n'a aucune nouvelle. Il rencontre des pères qui sont dans le même cas que lui, qui lui expliquent que, de toute façon, c'est perdu d'avance. Il engage quand même un détective privé là-bas. Il essaiera aussi d'y aller. Mais c'est le choc de culture, ce roman. Même si Nathan adore le Japon, qu'il connaît bien, comme Olivia Adam d'ailleurs, qui est un passionné de la culture japonaise, il est confronté à un décalage total entre l'idée qu'il se fait du pays et la réalité. Exactement comme June, en fait, elle était arrivée en France avec une idée, un idéal de la France, et quand elle est arrivée, ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité quotidienne. On appelle ça d'ailleurs le syndrome de Paris.
C'est pas vrai.
Olivia Adam.
C'est un syndrome dépressif, en gros, hein, qui s'abat sur les Japonais qui séjournent longuement en France. D'abord parce que la distance entre la France et singulièrement Paris et l'idée qu'ils s'en font depuis là-bas est tellement grande. Parce que voilà, là-bas, c'est Amélie Poulain, c'est Paris des Aristochats, et puis un peu avec du Chanel, avec des grands acteurs français. Enfin voilà, tout est censé être raffiné, beau, la ville lumière et tout ça. Et puis bon, tous les gens qui vivent à Paris savent que c'est pas exactement ça. Et puis aussi, ils sont extrêmement heurtés par la saleté dans les rues, les incivilités, notre brutalité, notre impolitesse, la manière dont on nous parle. Et puis, Nathan, lui, qui adore le Japon aussi, pour les mêmes raisons, pour cette idée du raffinement, de l'élégance, de la douceur, il va aussi se heurter, mais lui, de plein fouet, d'une manière qui va vraiment impacter considérablement sa vie, et même la mettre en pièces, à une autre forme de brutalité et de froideur, là, pour le coup.
Mais alors, est-ce qu'il retrouve son fils à la fin, Nicolas ?
Ça, vous lirez pour savoir. C'est pas un polar, ce roman, mais il y a quand même un suspense. Il y a un peu de polar, quand même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ne peut pas s'oublier.
Tout ne peut pas s'oublier ? Tout peut s'oublier ou tout ne peut pas ?
Tout ne peut s'oublier. Pas, mais le titre, c'est tout peut s'oublier.
Voilà, titre de ce nouveau roman d'Olivier Adam chez Flammarion. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. On peut vous retrouver chaque dimanche à 14h dans La Voix est libre sur Europe 1. Votre invité, ce sera qui ?
Et ce sera Gaspard Koenig.
Haroun, réaction. Vous connaissiez, j'ai vu à votre regard, que vous connaissiez le syndrome de Paris.
Oui, oui, le choc des Japonais qui viennent à Paris. Mais je pense que c'est aussi un problème de marketing touristique. Quand on voyage et qu'on a vu les affiches et les photos Instagram d'un paysage, on arrive dessus. Enfin, moi, ça me l'a déjà fait. On arrive sur une plage qu'on avait vue en photo, et en fait on n'a pas compté la chaleur accablante, les moustiques, la saleté éventuelle, enfin la pollution, tout ça. Mais le marketing touristique ne nous montre pas ça et nous donne envie d'y aller. Et moi, c'est quelque chose qui me révolte un peu, le fait de forcer les gens à aller dans un endroit en ne s'attendant qu'au côté positif et pas prendre ce qu'il y a de négatif. Quoi.
Évidemment, si on pense tomber à Paris sur Amélie Poulain, c'est raté.
Non, mais, bien sûr, mais le voyage, c'est aussi ça. Le voyage, c'est aussi découvrir les côtés négatifs d'un endroit, mais de s'en imprégner aussi. Quoi.
Vous êtes fan de séries ?
Oui, relativement, mais je regarde pas beaucoup, mais quand je les regarde, je suis à fond.
Ben, on est pareil. Dans un instant, on parlait séries avec notre deuxième indispensable, avec Clémence Olivier. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Mais merci. D'abord, musique, c'est Loubiana.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Clémence Olivier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Avec vous, on parle série et aujourd'hui, vous nous proposez un voyage dans le passé avec une série de Good Lord Bird. Ça se passe quand ?
Oui, ça se passe au temps des cow-boys, vous savez, en 1858. On va remonter le temps donc aux États-Unis. On suit le parcours de John Brown, un cow-boy pieux et enragé. C'est un abolitionniste prêt à tout pour libérer les esclaves, quitte à employer la manière forte.
Si quelqu'un était venu chez nous pour voler une de tes sœurs, deux de tes frères, ta mère et ta grand-mère, et les avait enchaînés, violés, obligés à travailler sans être payés, les nourrissant juste assez pour qu'ils survivent et que j'avais retrouvé ce voleur, je lui enfoncerais ma lame dans la cavité de l'œil. À l'instant où je le verrais, je tuerais tous ses amis et tous ceux qui riaient à ses blagues. Et ça ne serait pas un meurtre, ce serait justice.
Bon, sa méthode est musclée, hein, comme dans cette scène que vous venez d'entendre. Et on va suivre la croisade abolitionniste de ce cow-boy à travers les yeux de Onion, un jeune esclave noir que John Brown a pris sous son aile. Sauf que le cow-boy croit à tort que le jeune garçon est une fille.
C'est une histoire vraie ?
Eh bien oui et non,
c'est-à-dire
que la série s'inspire d'un roman publié en 2013, L'oiseau du bon Dieu, écrit par James McBride. Il décrit des personnages et des événements historiques qui vont conduire à la guerre de sécession, mais il y a aussi une grande part de fiction. En gros, le prédicateur illuminé John Brown a bel et bien existé et mené une lutte armée pour libérer les esclaves, mais sa rencontre avec Onion, elle, effective.
Et si je vous suis, c'est ce personnage qui apporte à la série son originalité.
Eh bien oui, parce que comme Onion n'a pas voulu contredire Bran et se fait passer pour une fille, il se retrouve dans des situations un peu embarrassantes, comme quand il explique à des confédérés qu'il veut se rendre en ville pour trouver un boulot de barbier, sauf que s'imagine que c'est une prostituée.
Quel genre de travail t'espères trouver avec un nègre aussi renfrogné que lui ?
Je sais m'occuper des messieurs. J'ai tout appris de mon père.
Ton père ?
T'es pas un peu jeune pour t'occuper des messieurs ?
C'est pas de ça qu'elle parle.
Si, c'est tout à fait de ça que je parle. Et tu serais bien avisé de ne pas me reprendre.
Mais t'aimerais pas plutôt servir dans une taverne ou faire la vaisselle ?
Pourquoi être serveuse quand je peux faire 10 hommes en une heure ?
Ouh, j'en ai des frissons plein le pantalon !
Bon, alors le personnage nous amuse, mais il nous permet aussi de prendre du recul sur l'action de Bran. Onion ne le voit pas comme un sauveur. D'ailleurs, au départ, le prédicateur lui fait peur, il le suit malgré lui. Mais peu à peu, le garçon va comprendre le désir de justice qui l'anime.
Ah oui, et c'est ça qui vous a plu ?
Oui, beaucoup. D'abord, la série m'a plu parce qu'elle nous renseigne sur une page sanglante de l'histoire américaine, sans pour autant faire de John Bran un héros. Chaque personnage est nuancé avec ses parts d'ombre, et ça évite de tomber dans une caricature du riche blanc sauveur des pauvres noirs. Et ça fonctionne d'autant plus que la série a un vrai ton décalé. On retrouve un peu le style, vous savez, des frères Coen, avec des scènes un peu trash, ouais. Et en même temps, des purs moments de comédie. Ça passe par le dialogue et les jeux des deux principaux protagonistes. Le comédien Ethan Hawke, qui est fabuleux dans les bottes d'un John Bran vociférant, postillonnant, enragé, et le jeune Joshua Caleb Johnson, qui joue Onion, qui apporte de la fraîcheur au récit.
Et sur la forme, c'est comment ?
Et ben là aussi, c'est très réussi. Hein. C'est un vrai western. Les cow-boys ont la gâchette facile, ils viennent se consoler dans les bras de prostituées, et on voyage avec les protagonistes crasseux et armés dans les grandes plaines américaines. On est vraiment transporté dans cette époque, dans cette ambiance, grâce à la superbe photographie, et grâce à la musique aussi.
Ah oui ?
Elle est hyper entraînante, variée également. Le générique, par exemple, c'est un gospel. On entend aussi de la country sur les scènes de bataille, ou encore la voix de Nina Simone. Elle résonne lors d'une scène très émouvante de l'épisode 2. Une esclave noire est pendue pour avoir tenté de s'échapper. Et ça dit beaucoup de l'essence même de cette série. C'est une épopée irrévérencieuse qui peut nous faire passer en quelques instants du rire aux larmes.
Je laissais Nina Simone finir sa phrase. Où est-ce qu'on peut voir The Good Lord Bird, Clémence ?
C'est sur MyCanal, il y a 7 épisodes, tous sont disponibles dès aujourd'hui.
C'est une série anglaise, américaine ?
Américaine au départ, elle a été diffusée cet automne aux États-Unis, elle a fait un gros carton, et elle arrive aujourd'hui en France.
Elle était sur quelle chaîne ?
Elle était sur Showtime.
C'est tout, Clémence. Vous êtes fan de séries, vous êtes de clients de ce genre de fiction.
Est-ce qu'elle est terminée cette série, ou est-ce qu'il va y avoir une autre saison ?
A priori, elle peut se terminer. Moi, je pense qu'elle est terminée.
D'accord. Parce que j'adore les séries, mais j'adore pas les séries qui sont à rallonge parce que je déteste attendre l'année d'après pour avoir la suite. Parce que j'ai oublié, quand je regarde, j'ai oublié la saison précédente et ça m'a fait ça sur Westworld.
Ah oui, je comprends.
Que j'adore.
Ouais.
Mais elle est compliquée, cette série. Elle a un accès aussi un peu philosophique, mais j'avais oublié plein de choses et j'avais l'impression de ne pas comprendre.
Qu'est-ce que vous regardez comme série ? Est-ce que vous en avez une à nous conseiller, Arun ?
Franchement, Westworld, sur ce qui se passe en ce moment, sur la collecte de données, et la surveillance, tout ça, c'est très intéressant. Et Barry aussi, qui est un serial killer.
Comédie, c'est très drôle.
C'est génial.
Je connais pas, c'est quoi génial. Barry raconté ?
Barry, oui.
C'est un serial killer qui veut se mettre au théâtre, en fait.
Ouais.
Et il veut arrêter d'être serial killer, il veut se mettre au théâtre. Et on découvre d'un côté le monde des serial killers et de l'autre côté les théâtreux un peu ratés qui essaient de réussir. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, moi.
Rien que le pitch me fait marrer, mais comment ça se passe quand il n'est pas d'accord avec un patron de salle ?
Bah justement, il y a des choses qui se passent liées à ça, je ne vais pas révéler, mais c'est trop marrant de voir le monde des bisounours avec le théâtre et le monde des
oui,
des
puis ça
tueurs.
Donne des scènes vraiment très loufoques parce qu'évidemment, il est poursuivi par des mafieux totalement caricaturaux. Enfin, c'est hyper drôle.
Ouais, c'est très, très drôle.
Et les deux séries dont vous avez parlé, elles sont à voir sur OCS. Ouais.
Merci beaucoup, Clémence Olivier. Je rappelle, tiens, pour être totalement complet, qu'il y a un podcast qui s'appelle Sériland qui est disponible sur Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Podcast mené de main de maître, par Eva Rock. Vous restez avec nous, Arun, on n'a pas encore parlé de votre site internet et de plein d'autres choses. Il y a le Premier ministre Jean Castex qui va faire des annonces au sujet des salles de spectacle et ça m'étonnerait que vous ne soyez pas concerné. Merci beaucoup Clémence, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Haroun, Les pensées d'Héraclète, c'est aux éditions des Équateurs. On peut le redire, Héraclète, c'est pas vous, mais c'est vous. C'est vous qui avez écrit.
Ouais, voilà, c'est moi. C'est une création, un prolongement de ma main.
Pourquoi avoir écrit un livre alors que votre métier, c'est humoriste? C'est parce que vous aviez du temps à perdre avec le confinement?
Mais il y a ça. Mais j'avais commencé un peu avant et parce que ça me fait rêver un peu l'écriture d'un livre. Enfin, au-delà du fait d'écrire, parce que j'adore écrire et j'ai toujours plein d'idées en cours, le fait de sortir un objet livre qui est un objet qui m'impressionne, qui m'a toujours impressionné, c'était un défi pour moi. Ça a été un vrai défi, ça a été parfois dur, mais je suis content de l'avoir fait.
Vous écrivez qu'il y a un domaine qui fait votre joie, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est quand quelqu'un cite un auteur qui n'existe pas. C'est le piège que vous aimeriez tendre à vos contemporains. Que quelqu'un cite un jour Épictète.
Oui, mais en fait...
Héraclète qui n'existe pas, Épictète il existe.
Oui, mais en fait, c'est une idée aussi de Montaigne dans les essais qui dit que quand il cite quelqu'un, il ne dit pas le nom pour laisser son interlocuteur la liberté de contredire. Parce que dès qu'on donne un nom un peu connu et un peu impressionnant, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de contredire parce que ça y est, c'est établi, c'est gravé dans le marbre. Alors que souvent, ce sont des citations qui sont tirées de textes qui, parfois, dans le contexte, ne voulaient pas dire ça. Et puis, l'auteur n'est pas là pour se défendre. Donc, y a une injustice faite à citer des grands auteurs parce que celui d'en face ne peut pas contester. Donc, c'est ça qui me faisait marrer dans le fait d'utiliser un faux auteur.
Vous avez entendu parler de Botule et du botulisme?
Oui.
On va raconter ce que c'est. C'est Jean-Baptiste Botule, qui est un auteur du 19e siècle qui n'a jamais existé, qui a été inventé, pourquoi j'en parle aujourd'hui, par Frédéric Pagès du Canard Enchaîné, et aussi par Hervé Le Tellier, qui a eu le prix Goncourt avec le film L'Anomalie. Mais Botule a été cité par plein de gens.
Oui, notamment BHL.
Exactement, qui avait cité Botule.
Un philosophe qui a recité un philosophe. Enfin, un philosophe, j'en parle aussi dans le livre, c'est à partir de quand on est philosophe, en fait.
Exactement. J'ai dit l'anomalie, le film, non, c'est un livre, puisque le prix Goncourt, c'est un livre, évidemment. Autre activité, et non des moindres, c'est votre activité principale, la scène. Dans votre dernier spectacle, qui était sobrement intitulé Haroun, vous parlez de la religion musulmane et vous moquez de quelqu'un qui vous demandez votre avis sur le voile. On écoute la suite.
Personne n'est d'accord sur ce truc. Même les musulmans entre eux ne sont pas d'accord sur le voile. Non, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Chacun a ses raisons. J'ai demandé à un pote musulman, j'ai dit pourquoi les femmes elles portent le voile? Il dit c'est pour cacher leurs cheveux, pour pas séduire les hommes. J'ai dit donc toi, la première chose que tu regardes chez une femme, c'est les cheveux. Il m'a dit mais grave pas. Il m'a dit moi c'est les monnaies moi. J'adore les monnaies moi. Moi ma femme elle a pas le voile, elle a les chaussettes de foot.
Vous aimez bien les sujets polémiques?
J'aime bien, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler, de se parler en fait. Je trouve que ce qui manque, c'est de se parler, de polémiquer, mais de polémiquer pacifiquement. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on prête une pensée à toute une communauté ou un peuple, on oublie que dans cette communauté, dans ce peuple, il y a des gens qui sont pas d'accord. Et quelle que soit la communauté ou le peuple, il y a des gens, tout un ensemble d'identités qui sont pas d'accord entre elles, et c'est important de le dire, de dire que chacun a sa singularité et chacun a besoin de penser avoir ses propres pensées en fait. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce sujet.
Haroun, vous dites que vous ne vous interdisez aucun sujet, aucune situation, comme dans un sketch où vous vous retrouvez par hasard dans une manifestation, pas n'importe laquelle, une marche contre les violences faites aux femmes.
Il y a une fille qui m'a reconnu, elle dit ah Haroun t'es avec nous, j'ai fait pas vraiment. Et j'ai vu la déception sur son visage. Et donc j'ai marché un peu avec elle, elle m'a expliqué la cause et tout ça. Et j'ai été engagé contre la violence faite aux femmes pendant à peu près 250 mètres. Voilà. Avant ça, je marchais pas pour ça. Et après ça, fallait que j'y aille. Et puis en plus, bon, j'étais pas non plus là quand ça s'est passé, tu vois. Non mais ça se trouve, elle avait vraiment mis trop de sel dans le gratin, je sais pas, tu vois. Ouais. Ouais, non, n'applaudis pas ça. Les gens ne vont pas te suivre là-dessus. C'est les gens qui sont très sensibles aux blagues sur les gratins.
Il y a évidemment plusieurs niveaux dans votre humour, on le comprend. Et le n'applaudis pas, celui-ci aussi fait réfléchir.
Oui, en fait... ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point... je peux, enfin, emporté par son émotion, on peut dépasser les bornes, en fait, et c'est ça qui m'arrive quand je fais cette blague sur scène. En fait, je parlais vraiment de quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai marché dans le cortège contre les violences faites aux femmes, vraiment, parce que je marchais à ce moment-là dans la rue, et ça m'a interpellé de me dire que j'étais compté dans les manifestants, alors qu'à la base, je n'étais pas venu pour ça.
Ouais.
Et ça m'a posé la question sur qu'est-ce que c'est que l'engagement, et à partir de quand je considère que je suis vraiment engagé pour une cause. Et voilà, donc j'avais toute cette réflexion-là, et j'essaie de réfléchir aussi à qu'est-ce qui, en moi, est contestable quand j'essaie de montrer que extérieurement je suis quelqu'un d'idéal.
Votre nouveau spectacle est déjà écrit, il est même annoncé, il s'appelle Seul, Seul avec un S, au pluriel. Pourquoi, ça raconte quoi ?
Bon, déjà, c'est un titre qui m'a été inspiré par le confinement, parce qu'on était chacun chez soi, seul, tous un peu seuls. Donc c'était déjà l'idée du titre. Et ensuite, c'est justement ces idées-là dont on vient de voir un extrait. C'est en quoi, moi, quand je suis en société, je suis une personne. Quand je suis en privé, je suis une autre personne. Quand je suis jeune, je suis une personne. Quand je suis vieux, je suis une autre personne. Et en fait, on a l'impression que... On reproche aux gens souvent leurs pensées, alors qu'on n'a pas les mêmes pensées à différents moments de sa vie. On n'a pas les mêmes pensées à différentes situations. On peut être de gauche à un endroit, à droite à un autre endroit. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est pluriel déjà, nous, à l'intérieur, et c'est ça qui m'intéressait d'explorer dans ce spectacle.
J'aimerais vous demander quand est-ce qu'on va voir votre spectacle, mais je pense que vous ne le savez pas. Ce soir, le Premier ministre Jean Castex, Premier ministre, va faire des annonces à 18h à propos du confinement. Vous attendez quoi ? Ça vous fait sourire ? Pourquoi ça vous fait marrer ?
Non, parce que des annonces, on en attend toutes les trois semaines. Et en fait, le 15 décembre, on a attendu une annonce qui a repoussé l'ouverture de salle. Là, le 7 janvier, il y a eu un nouveau report d'ouverture de salle de spectacle. J'attends qu'on va encore nous reporter les ouvertures de salle de spectacle. C'est tout ce que j'attends. Moi, j'attends plus grand-chose, en fait. Ouais. Là, on fait qu'improviser, on attend, on est là. Bon, moi, j'en profite pour écrire et faire... d'autres choses, mais j'ai plus vraiment d'espoir. J'essaie de plus avoir d'espoir dans les annonces.
Vous précisez dans votre dossier de presse, vous le dites souvent, que vous êtes auteur de tous vos textes. Pourquoi cette précision ?
Mon équipe et moi précisons ça. Parce que, déjà, j'ai envie de les assumer, ces textes, au maximum, et parce que je trouve que c'est important d'être auteur des textes, sur certaines idées en tout cas.
Guy Bedos avait ses textes écrits par Jean-Loup Dabadie, ça n'a rien retiré ni à sa carrière, ni à son humour.
Non, mais il y a certaines idées que je trouve qui sont importantes d'écrire soi-même, parce que quand il y a un fond de sincérité, de vérité, quand je raconte quelque chose qui m'est arrivé, j'ai besoin que ce soit moi qui l'écrive, j'ai besoin que ça sorte vraiment de moi. En tout cas, sur certaines chansons, par exemple, c'était important pour moi de savoir que c'était le chanteur qui avait écrit cette chanson qui l'est, et plutôt qu'un auteur. Parfois, j'étais un peu déçu par ça.
Vous savez quoi ? Je m'en veux, il faudra que vous reveniez. On n'a même pas eu le temps de parler de pasquinade.fr, le site que vous avez lancé à la vache pour lutter ou pour échapper un peu en quelque sorte aux GAFA et à YouTube. Haroun, les pensées d'Héraclès, c'est écrit par vous. C'est aux éditions des Équateurs. Merci d'avoir
beaucoup.
Été avec nous dans Culture Média. Demain, nous, on se retrouve à 9h, évidemment. On va parler d'une nouvelle émission qui a demandé 3 ans de tournage, ça s'appelle Opération Renaissance. Elle met en avant 10 témoins en obésité morbide sur M6 et nous serons avec sa présentatrice Karine Lemarchand. Et puis on va fêter les 40 ans du groupe Trust, vous connaissez ou pas ?
Trust, bien sûr.
Bien sûr, alors que c'est transgénérationnel. On sera avec le cofondateur du groupe et chanteur Bernie Bonvoisin, antisocial.
Est-ce qu'il a perdu son sang-froid ou pas ?
On lui demandera demain, c'est une très très bonne question. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis à demain, merci à toutes et à tous, salut.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.